One Year Later, les oreilles loin du front, à l'heure anglaise. Depuis que je suis passée de l'autre côté de la Manche, j'écoute les oreilles en décalé. Je vous propose donc un petit retour sur l'émission de la semaine dernière. Pour cause de grève, solidarité aux grévistes bien sûr, pas d'invité en plateau. Vous nous avez diffusé un entretien réalisé avec Caroline Guibé-Lafaille, philosophe, dont l'ouvrage « Éthique de l'engagement politique armé » est paru en fin d'année dernière aux éditions Croquant. Et en ces temps de contestation et de manifestation, toujours ces mentions, hein, c'est tout particulièrement intéressant de se pencher sur ce sujet. Après tout, ce sont des militantes et des militants qui choisissent d'aller un bon cran plus loin et d'utiliser la violence politique pour défendre leur cause. Cette chercheuse est allée à leur rencontre pour comprendre comment ils et elles en sont venus à ce choix, comment ils et elles font face à ce paradoxe qui consiste à défendre des valeurs de justice et d'humanité de façon violente. Petite précision méthodologique, les entretiens qu'elle a faits l'ont été en milieu ouvert avec des militantes et des militants qui ont milité dans le passé mais ne sont plus actifs ou actives au sein de mouvements clandestins, même si la plupart restent engagés. Le regard est donc a posteriori. Et comme d'habitude, aux oreilles, on fait un pas de côté bien utile et on déconstruit. D'abord, il ne s'agit pas de gens qui ont une culture violente et délinquante et qui voudraient juste en découdre. Ce n'est pas non plus un groupe qui imposerait à ces individus ces formes radicales d'action. Ces militantes et militants sont déjà évidemment très sensibilisés à leur cause, ils savent où ils vont et ils adhèrent aux principes. Mais s'ils y viennent, c'est parce qu'ils ont l'impression que c'est inéluctable. Caroline Guibé-Lafaille nous replace dans le contexte de répression énorme auquel ils font face. On est dans les années 70 et en Italie et en Espagne par exemple, niveau violence, les groupes policiers ou paramilitaires qu'ils ont en face se posent là. Un des arguments de justification de la violence, c'est bien cette légitime défense ou cette réaction face aux attaques du camp d'en face. Et puis s'il s'agit de renverser le régime, donc de s'inscrire dans une perspective révolutionnaire, il leur semble qu'il faut en passer par là. Oh, ils ont parfaitement conscience du paradoxe que c'est d'opter pour la violence alors qu'il s'agit de défendre des valeurs de justice, de solidarité ou d'humanité. Mais effectivement, le rapport coût-bénéfice penche dans cette direction. Mais ils décrivent une approche normée, encadrée de la violence. Car sinon, qu'est-ce qui les différencierait du corps d'en face s'ils utilisent les mêmes moyens? C'est vraiment leur idée cardinale. Donc oui, il y a un cadre, il y a une norme qui régit leurs actions. Certains mouvements ne s'en prennent ainsi qu'aux biens matériels, symboliques. D'autres mettent un soin particulier et de gros efforts pour minimiser les victimes collatérales. Écoutez plutôt l'anecdote des pneus crevés de la camionnette de livraison de fleurs lors de l'enlèvement d'Aldo Moro. Et c'est finalement la question de la définition de la violence politique qui se pose. Comment cette catégorisation s'est étendue et a été instrumentalisée pour mieux discréditer ces mouvements et ces personnes. Alors même que d'abord c'est un de ces champs d'action, mais pas le seul. Ensuite que taguer un arrêt de bus, on n'est pas bien sûr que ce soit violent. Et qu'en termes de violence, il nous semble que c'est plutôt côté police qu'elle s'est accentuée, non? Bref, partez en Allemagne, en Italie et au Pays Basque pour comprendre cet engagement et apprécier le terme éthique du titre du livre de Caroline Guibé-Lafaille. En plus, vous pourrez entendre Juliette prononcer des noms de groupes de musique basque et Audrey vous parler guerrier urbain. Bonne émission ce soir, à la semaine prochaine et d'ici là, I am a Lears, enfin, je suis toute oreille quoi.